Le texte de ce matin s'inscrit dans toute une série de thèmes abordés durant l'été, et nous sommes donc au seuil de cet été de culte en commun, et on est pratiquement au début de la Genèse. Chapitre 2, verset 25, le tout dernier verset qui va introduire le chapitre 3. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Or, le serpent était le plus astucieux de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux possédant la connaissance du bonheur et du malheur. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur qui se promenait dans le jardin. Au souffle du jour, l'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Et j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompée. Et j'ai mangé. Le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Il dit à la femme, je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Tu seras avide de ton homme et lui te dominera. Il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bonheur et du malheur. Maintenant qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre à jamais. » Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posa des chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Merci, chers amis, pour cet accueil chaleureux. Merci à Claude pour la lecture du texte que nous avons entendu et pour le témoignage si émouvant que tout à l'heure vous nous avez offert. Merci au pasteur Sewell d'avoir accepté d'ouvrir la garde-robe de secours de son bureau et de m'avoir permis d'arborer ce t-shirt noir. Quand on pense à toutes ces futilités de la vie, ces questions sottes qu'on se pose, comme ce matin, je me demande pendant un moment si je vais prendre plutôt la cravate verte ou la cravate bleue. Et puis voilà que je me retrouve devant vous, un t-shirt noir à manches courtes. Eh bien, peu importe, après tout, ne vous souciez pas du corps, de quoi vous le vêtirez. Imaginez que dans une salle, vous ayez d'un côté un homme fort savant qui vous fait un discours intitulé « Prolégomène anthropothéologique et réflexion sur l'humain idolâtre devant Dieu ». Et de l'autre côté, vous avez un conteur oriental qui vient vous raconter une histoire. Il était une fois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis prêt à parier que nous aurions plutôt tendance à aller écouter celui qui va nous raconter une histoire plutôt que celui qui énonce une conférence très sérieuse. L'histoire peut être farfelue, elle peut être parfaitement vraie. Voyez, nous confondons parfois le sérieux et le vrai. Comme si un discours sérieux était automatiquement du côté de la vérité, et comme si une histoire apparemment farfelue était du côté des frivolités. Je peux vous garantir qu'il y a des conférences tout à fait sérieuses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la vérité. Cela étant dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des conférences tout à fait sérieuses qui ont quelque chose à voir avec la vérité. Il y a des histoires apparemment fantaisistes, dans lesquelles on met en scène, par exemple, un serpent qui parle. Des histoires fantaisistes, et qui ont à voir très profondément avec la vérité. Cela étant dit, vous le savez bien, il y a aussi des histoires frivoles qui n'ont pas grand-chose à voir avec la vérité. Donc, il ne faut pas en rester à cette seule définition. Ici, dans ce troisième chapitre du livre de la Genèse, nous avons affaire à une histoire. Une histoire apparemment farfelue. Comment faut-il parler de cette histoire? Est-ce qu'il faut voir dans ce texte un mythe? Certainement, mais le mot mythe est piégé puisque il désigne aussi une chose trompeuse. Quelqu'un qu'on dit mythomane est quelqu'un qui aime raconter des mensonges. Or, le mythe peut aussi dire une vérité très profonde que le langage courant ne pourrait pas énoncer. Parlons plutôt de ce texte comme d'un récit fondateur qui nous dit quelque chose de vrai, de profond sur l'humain. Si l'on considère que ce texte est un récit fondateur, eh bien on évitera un certain nombre de fausses routes dont l'histoire des interprétations théologiques est largement documentée. Au XVIe, au XVIIe siècle, à d'autres époques encore, certains savants, et non des moindres, se sont demandé où cette histoire s'était passée. À la fin du Moyen-Âge, on imaginait l'Afrique, peut-être ce royaume mystérieux du prince Jean en Éthiopie, c'est là qu'était le jardin d'Éden. Et puis voilà qu'à la fin du XVe siècle, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Et bien sûr, le jardin d'Éden doit s'y trouver. On va ainsi chercher en Amérique où se trouve ce jardin et l'hypothèse la plus courante, ce sera d'aller le chercher quelque part au Brésil. D'autres diront qu'il est en Arménie. D'autres, Calvin par exemple, était de ce nombre, que ce jardin d'Éden doit se trouver en Mésopotamie puisque le Tigre et l'Euphrate sont mentionnés. Poser cette question géographique, c'est faire fausse route. Parce que ce texte ne nous dit rien sur la géographie. De la même façon, se demander quand cette histoire se serait passée, c'est là encore faire fausse route. Dans les anciennes Bibles, celles qu'on avait surtout dans le monde anglo-saxon, encore très largement au XIXe siècle et dans une bonne partie du XXe siècle, il y avait sur le haut de chaque page une date. On indiquait en quelle année s'était passée la chose dont il était question dans la page. Eh bien, la création du monde avait lieu en 4004 avant Jésus-Christ. C'est un évêque irlandais qui avait fait un savant calcul et qui était tombé sur cette date, 4004, pourquoi pas. Certains, je pense à tel prêtre sicilien au milieu du XVIIe siècle, sont allés beaucoup plus loin et se sont dit, ce serait important de savoir quel jour Adam a été créé et quel jour a été commis cette faute originelle dont nous allons parler. Sa réponse, après un épais volume de calculs savants, ça a été de dire que la création d'Adam a eu lieu le vendredi, le cinquième jour, vendredi, et c'était en 25 mars. Et puis, les choses ont continué, Ève a été créée par la suite, il a fallu nommer tous les animaux, et le péché originel, disait avec le plus grand sérieux ce savant du XVIIe siècle, le péché originel a eu lieu le vendredi 1er avril. Poser ce genre de questions à propos de notre texte, vous le voyez, c'est faire complètement fausse route. C'est faire de ce récit fondateur une histoire censée se passer ici ou là, à tel ou tel moment. Si ça n'était que ça, notre texte serait une anecdote. Il est beaucoup plus que cela. Si l'on en parle comme dans récit fondateur, c'est que ce texte que Claude nous a lu veut dire quelque chose de nous. Pensez à cette autre histoire du deuxième livre de Samuel, quand Nathan vient vers le roi David et lui raconte une histoire. Il est question d'une brebis, d'un riche qui ne veut pas tuer sa brebis pour recevoir son hôte et qui va prendre le petit agneau du pauvre qui vit à côté. David, vous vous le rappelez, s'indigne, et voilà que Nathan lui dit à ce moment-là, comme s'il lui tendait un miroir, « Cet homme, c'est toi. Cet humain, c'est toi. » Et c'est cela que nous sommes invités à comprendre dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure. Cet homme, cette femme dont il est question dans le texte, c'est toi. D'ailleurs, Adam, ça ne veut pas dire autre chose que homme, le terreux. Celui qui est fait à partir de la glaise. Ève, ça veut dire la vivante. Adam, Ève, les protagonistes du récit que nous avons entendu, c'est nous. Et ce texte dit quelque chose de très profond sur nous. Nous voyons que l'humain est une créature admirable. Et en même temps, nous constatons tous les jours que le monde ne tourne pas aussi bien que nous aimerions qu'il tourne. La première expérience que nous faisons comme humains, et c'est une expérience qui nous distingue, semble-t-il, de la plupart des animaux, c'est prendre conscience du fait que nous allons mourir. Mettre au monde un enfant, c'est savoir aussi qu'un jour, cet enfant mourra. Les animaux ne le savent pas. Nous, nous le savons. Et c'est quelque chose qui conditionne la vie humaine. Nous savons, et le témoignage de Claude intervenait ici fort à propos, nous savons que nous sommes fragiles. Nous savons que la maladie peut s'abattre sur nous, et pas seulement sur celui ou celle d'à côté. Nous savons que nous sommes des êtres faibles. Nous savons que les fruits de la terre ne poussent pas tout seuls. Certains parmi nous savent particulièrement, et je pense à ce côté de Versoix qui s'appelle la route de Saint-Loup, certains savent bien que les pommes ne poussent pas dans des cageots, mais que les pommiers requièrent tout au long de l'année, et pas seulement au jour où on va vendre les pommes, requiert tout au long de l'année des services attentifs, des soins minutieux. Et encore, nous vivons dans une région qui est bien arrosée. Pensez à ces régions de l'est de la Méditerranée dans lesquelles ces textes prennent naissance, où la pluie tombe si rarement, où l'on sait que les produits du sol ne viennent qu'à la sueur du visage. C'est notre vie qui est décrite ici. Les femmes qui ont donné naissance à des enfants savent que s'il est des grossesses qui se déroulent harmonieusement du début à la fin, eh bien il en est d'autres qui sont jalonnées de complications. Et l'on sait que l'accouchement n'est pas une petite affaire. Quand j'étais en Angleterre, j'ai eu une fois la curiosité de regarder des questions qu'on posait lors d'examens à des étudiants en médecine. On disait ceci, la grossesse est-elle une maladie ? Discuter. C'est une maladie ou pas ? Sans doute non, mais en même temps, cela requiert des soins médicaux, donc c'est quelque chose qui doit être médicalisé, sans parler de l'accouchement. C'est notre situation qui est décrite dans ce texte. Comme est décrite dans ce texte la situation dans bon nombre de sociétés dans lesquelles, entre l'homme et la femme, il y a inégalité, où la femme est soumise à l'homme. Dans ce texte, comment ne pas voir aussi notre propre lâcheté? Non, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a donné ce fruit. Cette lâcheté, n'est-elle pas celle de l'humain qui tout à coup est confondu devant Dieu et qui cherche des excuses? Et plus on cherche des excuses, plus on tombe dans le ridicule. De façon plus profonde, ce texte ne désigne-t-il pas cette tentation fondamentale qui est logée au cœur de tout humain et qui est, même si on n'ose pas vraiment se l'avouer, et qui est d'être comme Dieu? Si vous mangez de ce fruit, dit le serpent, non, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous aurez le pouvoir de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Vous serez, en d'autres termes, au-dessus de la loi. Vous aurez le savoir, vous aurez la puissance, vous aurez le prestige, la richesse. Tout cela que les humains recherchent si souvent, n'est-ce pas une façon de vouloir être au-dessus de l'humain, en d'autres termes, d'être à la place de Dieu? Et ce récit, sous la forme d'une histoire, nous dit cette chose essentielle, qu'à vouloir se mettre à la place de Dieu, nous provoquons une situation où les choses ne peuvent pas tourner rond. Combien de fausses routes n'a-t-on pas fait dans l'interprétation de ce texte? Au cours de l'histoire du christianisme, certains se sont saisis de ce texte pour dire qu'il était parfaitement normal que l'homme domine sur la femme. Pensez à la fin du IIe siècle, à ce père de l'Église latine, Tertullien, qui s'adresse à la femme en des termes particulièrement sévères. « Femme, tu es la porte du diable. Celui-là même que Satan n'a pas réussi à corrompre, Adam, toi tu as réussi à le faire. » En d'autres termes, disait Tertullien, tu es plus forte que le diable. En conséquence de quoi, il est normal que l'homme te domine. Se lancer dans une telle interprétation, c'est faire fausse route, puisqu'on confond la situation dans laquelle le texte prend racine à cela qui est la visée de ce texte. Comme faisait fausse route ceux qui, au moment où les techniques médicales ont permis des accouchements moins douloureux, ont cru prétendre que ça n'était pas conforme à l'Écriture que de ne pas faire souffrir la femme qui mettait au monde un enfant, puisque Genèse 3 le disait, tu vas souffrir. Autant d'interprétations sont à côté de la visée de ce texte. Pour ce qui est des relations entre les hommes et les femmes, il est vrai que les théologiens se trouvent dans l'histoire à avoir plus souvent été des hommes que des femmes et qu'ils étaient plus sensibles à tout cela qui pouvait attaquer la femme. La femme s'est laissée séduire, certes, mais il faudra attendre le XIXe siècle pour que du côté des États-Unis, des femmes disent « Attention, vous nous dites que la femme s'est laissée séduire, mais... » Nous vous rappelons que quand Dieu a donné le commandement, l'interdit d'aller consommer cet arbre mystérieux, la femme n'était pas encore créée. Elle n'a donc pas entendu Dieu le lui dire directement. Elle a entendu Adam lui dire la chose, l'enseigner par la suite. Or, Adam lui-même, qui a entendu Dieu lui parler, lui prend de ce fruit sans poser la moindre question. Alors que la femme... qui n'a pas entendu Dieu directement, essaye de discuter avec le serpent en disant « ben non, il ne faudrait pas ». C'est donc du côté de la femme, pourrait-on dire, qu'il y a une force de résistance plus grande. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, ce texte, cette histoire de Genèse 3, c'est quelque chose qui s'adresse à nous. Et Dieu, dans ce chapitre, pose à l'humain, pas seulement à Adam, pas seulement à Ève, mais à chacun d'entre nous, cette question fondamentale, où es-tu ? À laquelle nous sommes invités à répondre. Où es-tu ? Où est-ce que nous nous situons face à Dieu ? Je trouve toujours un peu rigolo d'entendre partout, dans le tram, dans la rue, dans le bus, des gens poser cette question. Et vous savez qu'aujourd'hui, depuis quelques années, c'est la question numéro un que posent les gens au quotidien. Le téléphone portable sonne ou on appelle quelqu'un pour lui dire « T'es où ?» Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, statistiquement, cette question est la première question qu'on pose avant de demander comment ça va. On a besoin de savoir où sont les gens. Eh bien, le premier à poser cette question à l'humain, quelques années avant l'invention du téléphone portable, c'est Dieu. Où es-tu ? Alors cette question-là, ne la prenons pas comme une question qui une fois aurait été posée, je ne sais pas, il y a environ 6000 ans à une personne. Mais entendons-la aujourd'hui comme une question que Dieu pose à chacune, à chacun d'entre nous. Et rappelons-nous que nous n'avons pas à vouloir être comme des dieux. Dieu est Dieu, l'humain est humain. Et j'aimerais ajouter, Dieu merci.